Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cet enregistrement en public du podcast Leçon BD en partenariat avec la Bibliothèque publique d'information. Je suis aujourd'hui au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en compagnie de Loïc Guyon. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Avec plaisir.
Alors l'Américain, c'est votre dernier album. Il est sorti en avril 2021 chez Sarbacane. Vous aviez publié il y a quelques années, toujours chez Sarbacane, L'Enragé du ciel avec Joseph Safiedine. Mais c'est donc cet album, votre premier récit long, seul. Et l'aventure a commencé il y a plus de 10 ans avec un voyage en solo aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que est née l'idée de ce récit? Et on va rentrer plus dans le détail, effectivement, pour raconter comment est-ce que, des années plus tard, on peut aujourd'hui le découvrir en livre.
Ok, donc vous voulez que je vous parle notamment de ce voyage
Voilà, du moment où est apparu pour la première fois peut-être ce qui allait après devenir l'Américain.
Ouais, bah, du coup c'est peut-être cette idée de voyage à la base. C'était une période où j'avais eu la chance d'avoir un petit arrivage d'argent, un petit héritage. Et du coup j'aimais beaucoup voyager à cette époque. Et je me suis dit, je vais en profiter d'avoir pas mal d'argent pour aller dans un pays qui demande d'avoir de l'argent et faire cette espèce de road trip fantasmé aux États-Unis. Donc je suis parti, je pense que ça a duré 7-8 mois environ mon voyage. Je suis allé aussi un peu au Mexique, un peu au Canada. Et simplement, pendant mes voyages, je dessinais tout le temps, enfin au maximum quoi. J'avais des carnets et donc j'ai fait beaucoup de croquis sur la route là-bas. Ça a pas mal influencé mon dessin, parce que j'ai commencé à prendre un peu d'éthique graphique, dessiner des bâtiments, enfin des choses inspirées de ce que j'avais dessiné là-bas. Et donc ça me venait un peu intuitivement, même dans mes dessins d'imagination après le voyage, de dessiner des choses inspirées par ce voyage. Et il se trouve qu'à l'époque, au retour, avec une bande de potes, on avait créé des ateliers de bande dessinée expérimentale où on faisait des petits livres fanzines en une nuit, apéro, qu'on autopubliait à la photocopieuse. Et c'est pendant une de ces soirées qu'est né l'Américain, très spontanément, juste le personnage qui marchait dans la ville et qui avait une mallette et qui l'amenait à un personnage. Et le personnage fermait la porte, enfin il toquait à la porte, le personnage fermait la porte et quelqu'un lui demandait qui c'était. Il disait c'est l'Américain. Et c'était tout, c'était vraiment cette petite histoire courte. Et simplement après L'Enragé, du coup qui est sorti en 2015. Donc là, je pense que quand j'ai fait la petite histoire, ça devait être 2011-2012. Après, j'ai fait L'Enragé, qui est sorti en 2015. Là, je me suis dit, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus proche de mon univers, d'un truc plus cartoonesque, qui est plus ce qui m'inspire à la base, d'un dessin un peu plus délirant, tout ça. Et du coup, j'ai envie de partir sur un truc un peu action, un peu fou. Et je me suis dit que j'allais reprendre ce personnage. De l'Américain pour en faire quelque chose. Il y a le truc aussi de quand on avait imprimé le bouquin.
De la technique. Il y avait aussi c'est ce ça. Truc du rouge, du Posca. Ouais, enfin,
c'est qu'en fait, on avait. Déjà... Ouais, pardon. C'est qu'on avait. En général, on imprimait directement les couves. Cette fois-ci, je ne sais plus pourquoi, on n'avait pas pu imprimer directement des couves sur les petits livres. Et du coup, on avait juste mis des papiers de couleur. Et moi, je m'étais dit, je vais faire des petites couves à la main sur ces papiers. Et je fais de la gouache et du Posca dessus, et j'étais très content du résultat. Et donc, quand j'ai repris le personnage, je me suis dit que je voulais intégrer ces planches couleurs. Enfin, faire des planches carrément avec cette technique, parce qu'à la base, c'était juste des petites illustrations. Je me suis dit, pourquoi pas faire des planches carrément de BD, même si c'était un peu ambitieux. Et voilà. Et après, je sais pas si j'aborde déjà...
Oui, on peut dire, c'est vrai que ce personnage, donc l'Américain, c'est un des deux personnages principaux de votre bande dessinée. L'Américain, c'est une série télé qu'adore Francis et qui commence à rêver de ce personnage. Et effectivement, à un moment, ce personnage va sortir de l'écran pour, avec cette fameuse mallette dont vous parliez, et va lui confier une mission à Francis, qui est quelqu'un comme vous et moi, qui est dans une période où il ne travaille pas beaucoup, où il n'est pas extrêmement productif, puisque cet album parle aussi de création, de syndrome de la page blanche, de ce qui nous inspire aussi, puisqu'il y a d'autres références. Enfin, il y a des références, on va en parler dans cet album. Mais justement, pour reprendre le fil de ce que vous nous racontiez, vous avez l'envie de reprendre ce personnage, vous avez déjà des techniques en tête, des éléments visuels très forts. Comment est-ce que ensuite vous créez finalement cet album? J'ai cru comprendre qu'au départ c'était très improvisé, et que finalement, à un moment, vous vous êtes dit: bon, il faut écrire vraiment le scénario, parce que je vais pas forcément m'en sortir en improvisant tout le temps.
Ouais, c'est passé par pas mal d'étapes. Déjà, à la base, je suis parti sur un truc un peu d'écriture intuitive, où je voulais écrire un gros synopsis. Ce que j'ai fait, là, mes pensées sont un peu organisées, donc qu'est-ce que je veux raconter. À la base, le truc des planches couleurs, j'imaginais juste en faire des débuts de chapitres, et ensuite, quand l'idée du héros télé et des scènes de la réalité est venue, assez naturellement, je me suis dit, en fait, ça va être les épisodes de la série seront les passages couleurs. Je me suis perdu.
Par rapport à l'écriture intuitive et le besoin à un moment donné de se dire: non, en fait, c'est très bien d'être sur un instinct, un élan, mais à un moment, si je veux m'en sortir quelque part, il va falloir cadrer tout ça.
Ouais, et donc pour les planches noires et blanches, je m'étais dit, pour être plus productif, parce que je sais que les planches couleurs vont me mettre longtemps, les planches noires et blancs, je vais les faire direct en improvisant même le scénario, un peu sur le modèle que j'avais fait pour des 24 heures de la BD, où je me voyais capable de tomber des planches, ou 24 planches en une nuit. Et je me suis dit, j'allais faire comme ça. Ce qui marche moins bien quand on a tout le temps du monde, évidemment. Et donc j'avais présenté une première fois le projet à des éditeurs en le présentant comme ça, comme j'ai un gros synopsis. Donc j'avais quand même la trame générale toute racontée, mais j'avais pas tous les dialogues, tout le détail. Ce que j'imaginais improviser, et en fait, ouais, je me suis un peu cassé les dents à ce moment-là, parce que les retours des éditeurs c'était ok, mais en fait, j'avais jamais rien écrit avant, j'avais jamais montré ce que je pouvais faire, et même si j'avais déjà fait ça, j'ai eu comme retour que en fait, on peut faire ça avec un gros auteur en qui on a entièrement confiance, mais on peut pas partir signer un projet avec quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fini par aller en résidence à la Maison des Auteurs, où là, j'ai décidé, ok, je vais tout écrire et faire la moitié du storyboard avant de représenter une nouvelle fois le dossier. Ce que j'ai fait. Et là, donc, c'est rentré. Ce qui a, pour le coup, complexifié le projet au fur et à mesure des étapes, qui était censé, dans ma tête, être limite une petite récréation entre deux albums, et qui, en fait, est devenu un gros projet, parce que, forcément, en penchant plus dessus, en construisant plus le truc, j'y ajoutais des choses. Et ensuite, il a fallu aussi recouper dedans. Enfin, ça a été du bricolage, quoi.
Et par rapport à ces passages en noir et blanc, j'ai lu que vous aviez envie d'avoir cette énergie que peuvent avoir les mangas, c'est-à-dire que c'est une des influences, et qu'en tout cas, vous trouviez que ce trait-là allait vous permettre, c'est ce que vous disiez un petit peu sur la rapidité d'exécution, mais aussi, je pense, dans l'énergie même qui est insufflée au personnage. Le manga, c'est une grosse influence, une grosse référence ?
Pas tant que ça, je dirais. Enfin, visuellement, si, mais en vrai, j'ai pas tellement lu de manga. Mais j'ai une grosse influence anime et anime japonaise, et j'ai beaucoup regardé d'anime, mais je lisais pas tant de manga au final. J'ai lu un peu de classiques, Dragon Ball Z, Akira, ces choses là, mais j'ai jamais trop plongé dans des séries. J'en ai un peu lu dernièrement depuis que je suis à la Maison des Auteurs, parce qu'il y avait, enfin, pendant que j'étais à la Maison des Auteurs, parce qu'il y avait un accès illimité à la bibliothèque, dont j'en ai profité. Mais du coup, je pense que c'est influence anime, et ouais, enfin, il y a quand même une influence dans mon style, tout ça, qui vient du manga, je pense. Mais dans la bande dessinée elle-même, dans le manga pur, j'en ai pas lu des tonnes. Mais ouais, après, ça fait partie de notre culture maintenant, dans nos générations, donc ouais, je pense que j'en ai assimilé.
Et puisqu'on parle des influences, quand vous réalisiez, quand vous étiez en train de réaliser L'Américain, j'ai lu que Réalité de Quentin Dupieux vous a pas mal influencé. Est-ce que vous pouvez nous raconter, il y a ce film, il y a aussi d'autres influences, que ce soit d'autres influences télévisuelles ou aussi peut-être de bande dessinée, mais voilà, de quelle façon, quelles sont les œuvres qui ont pu vous accompagner, vous influencer, et de quelle façon est-ce que vous réussissez à mêler tout ça en fait à une histoire que vous êtes vous-même en train d'écrire? Parce qu'il y a des personnes, je sais, qui, au contraire, quand ils sont en train de réaliser un album, se disent « je ne lis plus rien, je ne regarde plus rien parce que, justement, je ne veux pas ». Ou de quelle façon est-ce que ces œuvres ont pu vous accompagner?
Moi, j'ai pas trop peur de ça. En même temps, des fois, si, parce que j'ai peur qu'on dise « ah, t'as copié », ce genre de truc. Mais en même temps, je trouve que finalement, c'était le propos de mon album. C'est l'influence, enfin, un des propos, c'est l'influence et comment, c'est comme ça que ça fonctionne. On se nourrit les uns les autres et on fait des refs, on fait des hommages et compagnie. Mais la réalité, je me rappelle que j'ai vu le film en plein quand j'étais dans l'écriture, donc j'ai eu un peu un truc de « ah ouais, mais c'est ça que je veux faire à ma façon », mais ce truc de... bon, il faut avoir vu le film déjà, mais il y a un truc un peu, comment dire, une mise en abîme un peu dingue où ça va dans tous les sens et on est complètement perdu, et enfin voilà, on sait vraiment plus du tout où est la réalité, et il y a des choses qui se rejoignent, des mises en abîme dans les mises en abîme et compagnie. Et je pense que il y a un truc de, on a l'impression que on peut trouver une logique, mais en même temps il y a des choses contradictoires. Ça, j'ai bien aimé, et j'ai voulu mettre ça et genre semer, enfin ouais, dans mon récit il y a quelque chose de très construit et on peut un peu se dire ah mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, je sais pas quoi, mais en même temps il y a des moments où je mets des choses qui peuvent contredire les deux versions, quoi, intentionnellement. Et voilà.
Comme autre influence, vous citiez Louis C.K., Mathias Lehmann aussi, je crois.
Ouais,
mais
ça, pareil, parce que Mathias Lehmann, je l'ai lu pendant... J'avais peut-être fini d'écrire quand même, mais c'est surtout Les Larmes d'Ézéchiel, où il y a un double récit comme ça... d'un type qui je me rappelle, ça fait un moment que je l'ai pas lu donc je me rappelle plus, mais qui fait un album de BD à la carte à gratter, je crois, ou en gravure, et il y a une histoire du DVD, du documentaire, de ce type qui réalise ça, qui est visionné par les héroïnes, tout ça, donc il y a un peu un double récit, une influence du truc en même temps, et en même temps qui parlait de, qui avait un récit intimiste qui parlait d'un personnage plus ancré dans le réel, et voilà, donc ça m'avait bien touché. Je sais pas vraiment si ça m'a influencé, parce que j'étais déjà un peu là-dedans, mais je me suis dit, ouais, c'est top. Louis C.K., c'est la série Louis, surtout pour ce côté, c'est ce que ouais, j'avais déjà raconté, qui rejoint un peu réalité, les espèces de trucs contradictoires et finalement des choses où même moi au visionnage je me suis dit mais c'est bizarre ce truc, ça tient pas d'un épisode à l'autre, il va changer d'acteur, changer, le personnage a plus les mêmes liens familiaux, je sais pas quoi, et en fait de finalement de sortir un peu de cette obligation, en fait voilà, au début j'étais un peu bloqué par ça, après je me dis non mais en fait c'est cool, on est libre de faire ce qu'on veut et de un peu perturber le lecteur même en lui disant des choses contradictoires et qui disent un peu, mais en fait, c'est peut-être pas si important, ces petits détails et la cohérence absolue à tout moment, quoi.
On parlait des influences de cet album en particulier, mais pour remonter un petit peu plus loin dans le temps, quelles sont les autrices, les auteurs, ou peut-être les univers qui vous ont accompagné peut-être plus jeune, et à quel moment, vous disiez tout à l'heure, j'en ai profité pour partir faire un voyage, vous avez très tôt fait des voyages, qu'est-ce qui, plus jeune, vous a donné envie de faire, vous aussi, des récits en bande dessinée? Quelles autrices, quels auteurs, quels réalisateurs, réalisatrices ont pu vous accompagner?
Il y en a des tonnes.
Ouais. Quelques-uns, quelques-unes.
Ouais. Alors, déjà, je pense le premier souvenir que j'ai de l'idée de faire de la BD, où j'ai posé la question à mon père, je me rappelle, c'est après avoir refermé un Lucky Luke. J'ai un souvenir, alors peut-être c'est aussi un souvenir fantasmé, mais je pense que j'ai refermé un Lucky Luke et j'ai demandé à mon père, est-ce que c'est possible de faire ça en fait, de faire de la BD dans sa vie, d'en faire son métier? Donc bah voilà, influence, Maurice, Lucky Luke. Après, je pense que j'ai eu une période heroic fantasy à l'adolescence, science-fiction, un peu tout ce qu'il y avait chez Delcourt, Soleil, tout ça. Et après, j'étais influencé par un ami proche à l'époque où arrivait ce qui a été appelé la nouvelle BD, Blin, Sfar, de Crécy, tout ça. Donc là, ouais, j'ai plongé dans tous ces auteurs qui m'ont nourri à fond et ouais, qui m'ont donné grave envie. Et comme je disais, à cette époque-là aussi, j'étais très dans l'animation japonaise. Et d'ailleurs, je pensais en faire à cette époque. Et bah, Miyazaki, comme plein de gens, forcément. Et je pense aussi à. J'en parlais hier avec un ami, Stéphane Aubier, Vincent Patard, si je ne me trompe pas dans leur nom. Pic-Pic et André, ce genre de truc. Je pense que ça a été un peu une influence depuis longtemps quand je pense aux scènes d'action. Et c'est ce genre de choses que j'ai envie de faire. Et dans l'américain, il y a un peu ça, je pense. Et ça rejoint un peu la folie des films d'action américains. Mais là, ils sont belges, hein, il me semble. Là, c'est le truc, ouais, de trucs qui partent dans tous les sens. Et une logique complètement dingue de balancer des trucs à un début d'épisode qui va retomber à la fin d'épisode. Et finalement, avoir des conséquences. Et tout était prévu. Enfin, il y a un truc complètement fou. Ouais, voilà.
Vous parliez de l'animation. Vous avez un peu travaillé dans l'animation. Vous avez travaillé sur les décors, notamment dans l'animation. En
Ouais.
quoi cette expérience, vous avez le sentiment aujourd'hui, vous sert dans la réalisation d'albums de bande dessinée? Et peut-être pourquoi, justement, finalement, vous vous êtes dit que c'était peut-être autrement que par l'animation que vous aviez envie de vous exprimer?
Je suis allé dans faire autrement que l'animation parce que j'avais peur du côté je peux pas tout décider moi-même ce que je veux faire et je me suis rendu compte à l'école que ça allait être compliqué de faire de l'animation tout seul et que ça serait mais finalement c'est pas si plus simple de faire de la BD tout seul mais en tout cas ce côté être réalisateur entièrement du truc un peu finalement peut-être égocentré je me rends compte maintenant de c'est moi qui décide et je veux tout faire tout seul. Et justement, les expériences récentes en animation m'ont fait me rendre compte que il y avait peut-être que j'avais évolué de ce côté-là, même sûrement, et qu'il y a un vrai plaisir finalement à faire partie d'une équipe, avoir un projet commun et mélanger les idées des gens, et même affiner ses idées grâce aux opinions des autres, compagnie. Et donc, ouais, donc j'ai laissé de côté l'anime en me disant. Aussi, on était. Alors, j'étais un peu. Vieux jeune réac à l'époque, mais on était obligé de faire de la 3D dans mon école si on faisait de l'animation. J'avais pas du tout envie de faire de 3D, genre je détestais ça, je voulais pas y toucher. Et donc voilà, je suis parti dans la BD et en me disant je ferai de l'anime tout seul de mon côté plus tard, ce que j'ai pas trop fait finalement. Et voilà, et finalement je me suis retrouvé dans l'anime par le biais de projets un peu particuliers où j'ai fait des décors, donc notamment Portrait de voyage de Bastien Dubois, où en fait j'ai fait du croquis comme je faisais dans mes voyages, donc c'était vraiment une prod d'anime particulière, surtout pour moi et mes autres collègues artistes. Je faisais des croquis qui étaient ensuite mis en 3D, où il y avait des mouvements de cam qui étaient mis dedans, donc des faux croquis de voyage parce qu'ils étaient faits en studio, quoi, mais avec plein de docs et compagnie. C'était hyper cool. Voilà ce que ça m'apportait, je pense, c'est le côté bah, prod. Il faut tomber du boulot tous les jours et tenir des horaires et compagnie. Donc, un peu un rythme. Et voilà. Et puis, voir un peu comment ça se passe de ce côté-là. Et puis, j'ai refait récemment du décor sur une prod vachement plus classique, sur un long métrage. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'en parler, mais je pense que oui, hein, il n'y a pas de souci. C'est Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux. Et là, pour le coup, j'ai vraiment dû rentrer dans le truc de l'anime qui est de s'adapter à un style, rentrer dans le moule du style, de décor, tout ça. Mais finalement, j'ai pas touché à l'anime dans ces boulots-là. Quoique sur Portrait de voyage, j'ai fait de l'anime, mais c'était de la rotoscopie. On peignait sur des petits films qu'on faisait. Donc voilà.
Tout à l'heure, je parlais de votre premier album, L'Orage est du ciel. Comment est-ce que vous avez été amené à publier cet album? Dans ce podcast, on essaye de parler vraiment des débuts, des premières fois. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'Américain était d'abord né dans un fanzine que vous créez avec vos copains. C'est quelque chose qui revient dans ces entretiens, le besoin, la nécessité de créer, de faire soi-même et de faire ses propres projets en s'auto-publiant avant d'avoir, et même en continuant après une fois qu'on est publié. Comment est-ce que vous avez été amené à être publié pour la première fois chez un éditeur important?
Ouais, déjà pour revenir sur le truc d'envie de publier en fanzine et compagnie, je pense qu'un peu pour tous les auteurs et d'ailleurs les réalisateurs et compagnie, c'est un truc hyper frustrant d'être toujours dépendant des éditeurs, des studios, des compagnies. Et voilà, je pense que ça se traduit comme ça non, on va faire les trucs nous-mêmes tant qu'on peut, quand on veut. Et du coup, la question c'était ouais, comment je suis venu sur L'Enragé? Bah là, c'est. Donc, je sortais de l'école, j'avais un blog à l'époque où j'avais publié dessus quelques planches de mon projet de diplôme, qui était un western. C'est Joseph Safieddine qui m'avait
Le
contacté,
scénariste,
le
oui.
scénariste, ouais, qui m'avait proposé, je pense qu'il cherchait un peu sur les blogs des auteurs, et il m'avait contacté des amis à moi et moi-même. Donc, il a publié plusieurs livres avec des amis, à l'époque chez Manolo Santis. Il m'avait proposé aussi quelques trucs, mais j'étais pas emballé par les projets qu'il me proposait. Et puis je voulais aussi garder mon indépendance, faire mes trucs. Et au bout d'un moment, je me rendais compte justement que j'arrivais pas trop à me détacher du projet de diplôme que j'avais sorti et qui était pourtant vraiment pas terrible, je pense. Comment dire? J'avais du mal ouais, à me détacher d'un truc dans lequel je m'étais investi. Et du coup, je me suis dit, parce que ça n'avait pas marché, j'avais présenté vite fait à des éditeurs et puis rapidement on m'avait dit non. Et je m'étais dit, bon, en fait, j'ai besoin justement de faire des projets dans lesquels je ne suis pas investi à 100%, parce qu'en fait, sûrement que faire un premier projet, c'est d'abord se prendre plein de refus et apprendre à monter des dossiers et se prendre des refus avant qu'il y en ait un d'accepté. Donc il faut que j'apprenne à être détaché des trucs. Donc ça sera plus facile si je fais des projets avec des scénaristes. Et donc Joseph m'a proposé finalement cette histoire de son arrière-grand-père, Roger Henrard, qui avait une vie de folie. Simplement, je me suis dit, bah, déjà, la vie de ce type est folle. Et surtout, dans l'album, il y a tout, enfin il se passe tout quoi, niveau voyage, bagarre, il y a un univers fort avec l'aviation, la guerre,
Que
il y
des
a
choses faciles à dessiner.
que des choses compliquées à dessiner, mais voilà, en me disant un premier album pour faire ses armes, autant faire plein de choses, je sais pas, montrer un peu tout ce que je sais faire et montrer à moi-même aussi tout ce que je sais faire, tout ce que je pourrais potentiellement être capable de faire. Donc ouais, je me suis dit, bah allez, j'avais déjà pas mal d'images en tête, je pense, de refs d'auteurs qui m'avaient bien influencé, notamment Christophe Blain, je pense que c'est assez visible sur cet album. Du coup, ouais, j'avais des images en tête, je me suis dit, ouais, je voyais déjà un peu toutes ces scènes. Et donc voilà, j'ai monté le dossier avec Joseph. Ça a été interrompu parce que justement j'ai bossé sur la prod Portrait de voyage à ce moment-là. Je suis revenu, j'ai fini le dossier, je l'ai envoyé. Ensuite, moi j'étais déjà sur d'autres trucs. Je commençais à faire des dessins plus à l'encre et compagnie parce que l'enragé c'est au crayon surtout. Je faisais beaucoup de croquis et tout ça au crayon à cette époque-là. Finalement, Sarbacane ont accepté le projet. Ils m'ont d'abord demandé de refaire quelques planches parce que justement c'était encore un peu trop immature, un peu trop influencé. Peut-être qu'il y avait, oui, si, il y avait un mélange un peu étrange entre cette envie, moi, que j'avais de faire des trucs un peu plus cartoon et un dessin plus un peu plus classique qu'il y a dans L'Enragé, plus comment dire.
Académique.
Ouais, peut-être, on peut dire comme ça. Et donc ils m'ont un peu calmé de ce côté-là, ils m'ont fait refaire des planches en me calmant un peu le côté sourire un peu ouf, yeux déformés et compagnie. Et donc j'ai refait quelques planches et voilà, et ça a été signé.
Et comment est-ce que... Donc il y a ce premier projet que vous publiez, ensuite vous vous lancez dans l'américain, donc il y a 6 ans. Pendant tout ce temps, ça a été un projet qui a été long à maturer. Comment est-ce que vous avez continué à côté, justement, ou pas, à créer pour d'autres supports, ou pour vous avez publié des récits avec Topo, vous avez collaboré avec Topo et la revue Dessinée. Comment est-ce que ces projets, finalement, nourrissent aussi vos projets personnels, ces projets qui sont annexes quelque part, qui sont des projets avec des scénaristes, justement comme L'Enragé du ciel. Comment est-ce que tout ça nourrit aussi votre propre création à vous?
Bah, ça fait toujours pratiquer. Et puis, c'est le genre de boulot. Des fois, on est un peu enfermé dedans. Des fois, j'avoue que quand on est sur un long projet et c'est un peu frustrant en fait parce que ça nous interrompt et souvent on le fait parce qu'il y a besoin de sous compagnie. Parce qu'on court souvent après l'argent, c'est pas quelque chose de caché, je pense, dans le milieu. Mais ouais, c'est quelque chose, ce genre de boulot. Et notamment Topo, surtout, ça m'a fait du bien parce que c'est des récits courts et j'ai pu expérimenter un peu des choses à chaque fois. Sans être trop concentré sur le texte, vu que c'est pas nous qui l'écrivons en général. Et ouais, ça me permet de tester quelques petites choses. Et je sais pas si ça nourrit directement, si ça nourrit directement le bouquin que j'étais en train de faire, mais en tout cas, ça va nourrir des choses plus tard. Et ça fait aussi des petites des bouffées d'air, faire un petit truc, prendre un peu de recul quand on est dans un long périple comme ça. Voilà.
Et tout à l'heure, vous parlez de l'importance des fanzines et vous aviez commencé à dire que oui, c'était quelque chose de commun à toutes les autrices et tous les auteurs. Pourquoi c'est si important que ça? Et est-ce que c'est justement, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on leur conseille pour qu'ils le fassent, mais est-ce que c'est quelque chose justement à conseiller, en tout cas de dire aux plus jeunes, mais oui, faites vos propres publications. Bien sûr que c'est important d'être publié à un moment donné, mais c'est justement en expérimentant, et aussi parce que c'est souvent des projets qui sont collectifs, et donc ça permet d'être au contact d'autres auteurs, d'autres autrices, et que tout ça permet aussi peut-être de se trouver soi-même, c'est-à-dire c'est aussi par opposition qu'on peut se trouver, c'est parce qu'on va travailler avec des personnes qui travaillent pas du tout de la même façon que nous, qu'on se dit en fait c'est ça ma voix à moi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver, ce goût du collectif et ce goût du fanzine.
Ben ouais. Non, ouais, carrément. Après, chacun son chemin, je pense. Je peux dire, il n'y a pas de la bonne façon de faire, mais c'est sûr que travailler collectivement, de toute façon, je pense à perso, avoir le maximum d'influence possible. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal à citer mes influences. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait une grosse tambouille avec des influences très différentes et que c'est comme ça qu'on faire les choses les plus personnelles. Après, ouais, chacun prend le chemin qui lui plaît. Et ouais, après, c'est comme je disais tout à l'heure, faire. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui le savent. De toute façon, maintenant, avec Instagram, tout ça, les gens s'auto-publient constamment. Et je dis ça, en fait, moi, je l'ai vraiment peu fait à mon goût. J'aurais aimé plus le faire, mais j'étais plus trop. Bah, j'étais un gros procrastinateur angoissé et timide par rapport à ça. Et donc j'ai pas tellement produit, montré des choses. Mais ouais, je pense qu'il faut se pousser à le faire. Mais ouais, les gens le savent, quoi. Et ouais, il faut produire, produire, produire. Et montrer. Et ouais, on évolue comme ça.
Et comment est-ce que on se sent après avoir sorti un album qui a mis autant de temps finalement à être réalisé, donc dans lequel vous avez mis des choses très personnelles? Est-ce qu'on a envie de partir justement sur quelque chose qui est très éloigné de nous, ou en tout cas une de ces parenthèses que vous évoquiez? En tout cas, voilà, comment est-ce que là, il y a un peu de temps qui est passé depuis la sortie de l'album qui a été très bien reçu. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes et sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement?
Eh ben, déjà quand c'était fini, j'étais très satisfait, soulagé. Bah, j'ai dû, voilà, je suis allé travailler en anime, donc j'ai dû prendre du temps pour moi, pour un peu aussi financièrement me remettre bien d'aplomb. J'ai fait pas mal de petits boulots de commande, tout ça. Et ouais, réfléchir à ce que je voulais faire pour la suite. Et justement, alors moi j'ai l'impression que je veux faire les trucs dans le désordre par rapport à ce que je conseillais avant. C'est que j'ai l'impression que maintenant j'ai envie de me mettre, après avoir gravi une grosse montagne comme celle-là, de plus me faire des petites collines et revenir à des récits courts. Et par contre, j'ai l'impression ces derniers temps que j'ai envie d'aller dans quelque chose de plus directement personnel, plus sincère. Moins camouflé derrière plein de couches et de mélanges et compagnie. J'aurais dit plutôt vouloir l'inverse avant, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça dont j'ai envie et besoin de parler ouais, plus sincèrement, sans filtre. Ce truc que j'ai beaucoup entendu et que je pense qui me plaît et me parle, c'est genre vraiment écrire en pensant que personne va nous lire, quoi. Pour essayer d'être le plus sincère possible, en se disant pas qu'est-ce que vont penser les gens et compagnie. Voilà. Donc pour le moment, l'objectif. Après, j'ai plein de projets en tête en vrai, mais je sais qu'il va falloir faire le deuil des trois quarts. Mais voilà, des petites BD, j'ai aussi d'autres gros projets, mais je pense que pour le moment, je vais me mettre sur des petits récits que je publierai probablement sur internet et voir ensuite si ça peut faire un recueil, un gros récit. Mais voilà, petits objectifs. Et puis je dois retourner travailler un peu dans l'anime avant d'être confortable financièrement, justement pour pouvoir être libre. Un peu, faut toujours trouver des moyens les plus plaisants possibles de se libérer de ses chaînes et de pouvoir faire ce qu'on a envie comme on a envie.
Et tout à l'heure, vous disiez que l'américain était né dans des carnets, ou qu'en tout cas c'était né à partir de ce voyage aux États-Unis. Toutes ces idées que vous évoquez, même si vous ne rentrez pas dans le détail, c'est le dessin qui vient. Quel est votre processus de création? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des bribes d'idées que vous notez sous forme de phrases, ou est-ce que, de manière générale, c'est plutôt le dessin qui, même si ensuite ça peut évoluer dans le traitement graphique, mais les premières idées sont couchées de quelle façon?
C'est un peu un mélange, mais je pense que c'est les dessins, les personnages qui m'inspirent un peu qui ils sont une fois qu'ils sont sortis, quoi. Et Échec pour l'Américain, par exemple, c'est né de. J'ai commencé à écrire, à chercher en écrivant et en même temps dessiner des petites scènes, juste des personnages, une bière à la main qui disaient des choses genre. T'as regardé l'épisode de l'Américain hier et voilà et partir de donc ouais ça naît un peu ensemble mais ouais petit dessin qui inspire scène qui inspire écriture plus construite et voilà après certaines scènes aussi comme la scène d'intro très cinématographique en tête depuis un bail et après ouais c'est un peu un puzzle de où je vais mettre quoi qu'est-ce que je vais faire rentrer, qu'est-ce que je dois virer. Mais ouais. Voilà.
Merci beaucoup,
Et ben de
Loïc
rien.
Guillon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
Merci à
aujourd'hui.
vous pour l'accueil.
Je...